bonjour, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur Graphite 94.9 FM, graphite.net en ligne. Je suis Stéphane Croza et je suis en studio avec Paul Vuattier, Lucas Bernache Assolant, Julie Boucaud et Anaïs Sintolesi. Bonjour à tous les quatre, à toutes les quatre, ça va bien ?
Bonjour.
Ok. Eh ben, bienvenue ici dans le studio de Graphite. Donc aujourd'hui, vous êtes là pour présenter vos projets réalisés dans le cadre du cours IS03 de l'Université de Technologie de Compiègne, cours qui s'appelle L'Othéquisation et Numérique. Ce sera peut-être un petit peu cryptique pour certains, mais du coup, ce sera beaucoup moins après l'émission quand vous aurez expliqué ce que l'on fait dans le cadre de ce cours. Eh bien, écoutez, si vous êtes prêts, je vous propose de ne pas garder la parole plus longtemps. Et donc, nous avons Lucas et Paul qui vont présenter en premier leur projet Stop Opso. Et donc ensuite, dans une deuxième partie, Julie et Anaïs pour le projet Framamia. Mais pour le moment, c'est parti avec Paul et Lucas pour Stop Opso, quand vous voulez.
Bonjour. Nous sommes Lucas Bernache Assolant et Paul Vuattier, étudiants en tronc commun à l'Université de Technologie de Compiègne. Et c'est avec une immense joie que nous vous présentons aujourd'hui notre projet Stop Opso. Stop Opso, c'est en premier lieu une application dédiée à la lutte contre l'obsolescence des smartphones. Mais avant de rentrer dans les détails du projet, nous souhaiterions vous présenter les suiveurs de celui-ci, Nicolas Journé et Olivier Gowin, tous deux enseignants-chercheurs à l'IUT de Bordeaux et qui ont préparé un audio expliquant brièvement le contexte du projet. Les voici.
Bonjour, Olivier Gowin.
Et Nicolas Journé, nous sommes tous les deux enseignants-chercheurs au LABRI et à l'IUT de Bordeaux en informatique. Et on s'intéresse aux impacts du numérique sur l'environnement et la société.
Ouais, donc moi j'ai découvert le cours de Stéphane Croza sur l'othéquisation du numérique il y a à peu près un an et demi. Et puis on avait envie de proposer un sujet en lien avec nos thématiques. Donc actuellement on mène une expérience sur l'obsolescence d'ordinateurs dans une salle de TP qu'on a rééquipée en vieille machine. Et voilà, suite à la lecture du mémoire de Léa Mosesso, on voulait étendre cette réflexion au cas du smartphone. Et donc faire réfléchir des étudiants à des leviers, des moyens de communication ou d'organisation pour étendre la durée de vie des smartphones. Voilà.
C'était Nicolas Journé et Olivier Gowin de l'IUT de Bordeaux.
Stop Opso, c'est une application qui vise à agir contre l'obsolescence des smartphones. Pour ce faire, nous nous sommes donné trois objectifs précis. Prolonger la durée de vie des smartphones, apprendre au grand public à utiliser leur smartphone de manière plus durable et persuader quelqu'un de ne pas changer de téléphone quand il est encore utilisable. Pour atteindre ces objectifs, nous avons imaginé différents produits au sein de l'application. Des forums participatifs pour que les utilisateurs puissent échanger et s'entraider, des fiches explicatives triées par thème et par niveau de difficulté expliquant comment réparer son téléphone ou proposant des conseils sur l'utilisation durable d'un smartphone, une carte d'atelier qui permettrait à un utilisateur de trouver les ateliers de réparation labellisés les plus proches de chez lui, un diagnostic d'appareil qui analyse les composants et les fonctionnalités du téléphone afin d'évaluer leur santé, et un comparateur de téléphone pour ceux qui veulent acheter un nouveau téléphone, mais qui est basé sur divers critères de durabilité, de réparabilité et d'empreinte technologique. Et enfin, un onglet investissement personnel pour que les utilisateurs qui le souhaitent puissent s'engager dans la lutte contre l'obsolescence.
La première étape de notre projet a été la veille. Nous avons effectué des recherches dans le but de trouver des idées pour réaliser le projet. Certaines recherches, celles qui portaient sur un article ou une thèse en particulier, ont abouti à des notes de lecture. Le principe consiste à résumer le texte en quelques idées principales. Une première note de lecture a été faite sur un mémoire de recherche effectué par Léa Mosesso en décembre 2022 sur les impacts environnementaux du numérique, intitulé Vivre avec un smartphone obsolète, et publié en 2022. L'objectif de ce travail était de comprendre l'obsolescence des téléphones et ses causes principales. La partie de ce mémoire qui nous a le plus intéressé pour notre projet concerne donc précisément les causes de l'obsolescence. Voici les idées principales que nous en avons retenues. Premièrement, la saturation du stockage est un facteur déterminant dans le renouvellement des téléphones. Les utilisateurs interrogés expliquent ce phénomène principalement par l'accumulation massive de données personnelles, notamment les photos, les musiques, les podcasts ou encore les vidéos, qui remplissent rapidement la mémoire interne. À cela s'ajoute la place croissante occupée par le système d'exploitation et les applications préinstallées, appelées bloatware en anglais. Cette croissance s'explique par l'augmentation régulière de la taille des mises à jour du système, qui intègre de nouvelles fonctionnalités et donc propose des modules plus lourds, faisant augmenter l'espace requis à chaque nouvelle version. Un autre élément important est la présence de données fantômes, catégorisées dans le stockage comme données système ou autres. Ces données sont souvent des caches accumulées, des fichiers temporaires ou encore des dossiers résiduels d'applications désinstallées. Par exemple, un utilisateur peut supprimer une application de montage vidéo, mais les fichiers temporaires générés par cette application peuvent rester dans la mémoire interne sans possibilité de les identifier ou de les supprimer facilement. Enfin, l'incompréhension généralisée de la gestion du stockage renforce cette saturation. Autrement dit, beaucoup d'utilisateurs ne savent pas comment fonctionne concrètement la répartition du stockage, ce qui se cache derrière des catégories comme « autres », ni quelles actions permettent réellement de libérer de l'espace. Ils ne savent pas non plus distinguer un cache utile d'un cache inutile, ni comment gérer efficacement leurs fichiers. Cette méconnaissance conduit à une accumulation incontrôlée de données, ce qui provoque des lenteurs, des blocages, puis à terme, un sentiment d'obsolescence. Nous avons donc gardé ces éléments en tête lors des étapes de conception du projet. Nous avons également rédigé une note de lecture portant sur une thèse théorisant un système de recyclage en Chine. Elle s'intitulait « La contribution de l'économie circulaire et la théorie de la gestion de la chaîne d'approvisionnement vert pour le système de recyclage et de réutilisation des déchets de téléphones mobiles », publiée en 2019 par Meiqing Song. Le nombre de téléphones produits n'a cessé d'augmenter, entraînant une surextraction de ressources, comme le cuivre, l'argent ou l'or, ainsi qu'une quantité croissante de déchets polluants, comme le cuivre, l'argent ou l'or. Le taux de recyclabilité de ces déchets reste très faible, autour de 20% selon Statista, même si cela reste général. Et il existe encore trop peu de législation et de régulation pour encadrer correctement le processus de recyclage. Bien que cette thèse propose plusieurs solutions dans le système d'indices de recyclabilité qui pourraient éventuellement marcher, nous avons surtout, pour notre projet, décidé de retenir la réparation et le reconditionnement qui nous paraissaient de meilleures idées pour prolonger la durée de vie des téléphones. C'est ainsi que nous avons gardé ces éléments en tête lors de l'étape suivante, c'est-à-dire l'idéation. Donc l'idéation, c'est l'étape où les informations tirées de la veille ont donné naissance à des idées que nous avons par la suite formalisées. Les grandes idées du produit sont essentiellement les produits que nous avons cités dans l'introduction. Deux idées principales ressortent, le diagnostic d'appareil et l'investissement personnel. L'idée avec le diagnostic d'appareil est que n'importe quel utilisateur pourrait à tout moment diagnostiquer la santé des composants de son téléphone, tels que l'état de la batterie ou vérifier le bon fonctionnement des différentes fonctionnalités du téléphone, comme l'écran tactile ou le Wi-Fi par exemple. Cela permettrait à n'importe qui de soit déterminer ce qui cause le dysfonctionnement de son téléphone, s'il y en a un, ou simplement de vérifier que les composants de son téléphone sont en bonne santé et que les fonctionnalités marchent bien. En ce qui concerne l'onglet « Investissement personnel », l'idée ici est de créer un onglet dédié à l'investissement personnel avec une fonction centrale « Signaler une obsolescence ». L'objectif est de permettre à toute personne confrontée à un cas d'obsolescence, par exemple un téléphone tombant en panne anormalement tôt, d'être immédiatement orienté vers un acteur capable d'agir. Plutôt que de rester général, l'onglet peut se concentrer sur deux fonctions clés. Premièrement, faciliter la prise de contact avec des associations spécialisées qui seraient capables d'agir. Et deuxièmement, rediriger directement vers le formulaire de signalement DOP, Halte à l'obsolescence programmée, une association française reconnue pour son action juridique et politique contre l'obsolescence des produits en France. Le bouton « Signaler une obsolescence » jouerait donc le rôle de raccourci vers ces structures. L'utilisateur pourrait rapidement trouver une association pertinente ou envoyer un signalement à HOP, qui dispose déjà d'un dispositif officiel permettant de déposer une plainte lorsqu'un produit présente un comportement anormal ou une durée de vie suspicieusement courte. Pour en revenir brièvement à l'association HOP, Halte à l'obsolescence programmée est une association française qui lutte activement contre les pratiques réduisant artificiellement la durée de vie de ses produits. Elle mène des actions juridiques, sensibilise le public et œuvre pour renforcer la réglementation. HOP met également à disposition un formulaire officiel, comme nous l'avons dit précédemment, permettant aux consommateurs de signaler un cas d'obsolescence afin d'engager des démarches et, si nécessaire, des actions collectives.
Nous avons ensuite tiré de chacune de ces histoires des fonctions que nous avons analysées sous un angle de l'authéquisation à l'aide de diverses valeurs, leviers et tensions. Pour commencer, nous allons parler du diagnostic d'appareil. Son objectif est de proposer deux options aux utilisateurs. Soit diagnostiquer le téléphone au complet par une série de tests dans l'objectif de chercher les causes d'un potentiel dysfonctionnement, ou de tester un seul composant, comme la batterie, l'écran ou les capteurs, ou une seule fonctionnalité, comme le Wi-Fi ou le Bluetooth, pour estimer son état de santé. De tels tests sont déjà proposés notamment aux propriétaires de téléphones Samsung. L'application exporterait donc le principe aux autres marques et modèles. Le diagnostic contribue à une valeur d'autonomie, donnant aux utilisateurs les moyens de comprendre eux-mêmes les causes de dysfonctionnement de leur téléphone. Il permet également de lutter contre l'innovation en permettant aux utilisateurs de jauger si leur téléphone doit réellement être changé pour un modèle plus récent, ainsi que contre le sentiment d'avoir besoin d'un nouveau téléphone. Nous avons également dégagé 4 fonctions de l'onglet « Investissement personnel ». Il permet aux utilisateurs de s'informer sur les avancées concernant l'obsolescence des smartphones, de consulter un historique des manifestations et des pétitions contre l'obsolescence et voir si elles ont mené à des mesures politiques, comme de nouvelles lois ou des réglementations, de voir les associations et collectifs engagés contre l'obsolescence près de chez lui, ou de signaler une potentielle obsolescence programmée, par exemple à l'association Hop. Elle encourage également les rassemblements en proposant aux utilisateurs de rejoindre des collectifs, contribuant à la valeur de solidarité. De telles mobilisations servent également comme préfiguration de nouvelles mesures par les politiques ou des associations comme Hop. Elles pourraient y mener grâce à une forme de pression, bien que ce ne soit pas garanti. Enfin, nous avons évalué notre projet, c'est-à-dire chercher ses points forts et les bénéfices que sa concrétisation entraînerait, mais aussi ses failles et les risques qui y sont liés. Un des outils que nous avons utilisé lors de cette évaluation fut de lister les potentiels effets directs et indirects du projet, à moyen et à long terme, ainsi que ses éventuels effets rebonds, c'est-à-dire l'augmentation des achats et ou de la consommation d'un objet ou d'une fonctionnalité liée à un de ses avantages, comme une meilleure accessibilité ou un impact environnemental réduit. Le projet vise certains effets. Il met en avant le reconditionnement et la réparation pour réduire le nombre de déchets de téléphonie et sensibilise les utilisateurs aux impacts du numérique et aux facteurs de l'obsolescence. À plus long terme, l'application pourrait entraîner une baisse des achats de téléphones neufs et par la suite une baisse de leur production, changer les modes de vie des utilisateurs, notamment concernant leur utilisation des téléphones, viser plus sobre, provoquer un essor du secteur du reconditionnement, de la réparation et du recyclage, et éventuellement inciter les politiques à mettre en place de nouvelles normes ou régulations sur le téléphone, l'obsolescence, le reconditionnement, etc. En revanche, l'application pourrait également avoir des effets néfastes. La baisse des achats entraînerait une réorientation de ceux-ci vers d'autres produits également ou peut-être encore plus impactants comme par exemple l'automobile ou le vestimentaire. Il en va de même pour la production. Pour compenser les pertes économiques dues aux faibles ventes, l'industrie va investir dans d'autres secteurs plus rentables. Comme l'application prône essentiellement le reconditionnement des téléphones usagés, elle provoquerait une baisse des dons de vieux téléphones à des associations caritatives qui auraient pu les donner à des personnes n'ayant pas les moyens de s'acheter un téléphone. Par ailleurs, comme les téléphones reconditionnés sont moins chers que les téléphones neufs, ils deviennent accessibles à plus d'acheteurs, ce qui pourrait entraîner une hausse des achats. Enfin, le déclin de l'industrie téléphonique pourrait provoquer une contraction du marché à long terme, fragilisant l'économie existante. Lorsque le projet se concrétisera, il sera important de garder à l'esprit toutes ces conséquences, surtout celles qui ne sont pas visées. Avant de conclure, nous aimerions vous passer un audio issu d'une vidéo YouTube de la chaîne Brut, contenant une interview avec un membre de Greenpeace, un réseau international d'organisations indépendantes qui agissent selon les principes de non-violence pour protéger l'environnement, la biodiversité et promouvoir la paix. Dans cet audio, l'intervenant nous parle du numérique et en particulier de l'obsolescence programmée. Écoutons maintenant l'extrait.
Depuis le premier smartphone, il y a 10 ans maintenant, on a vu vraiment une croissance énorme sur le secteur IT. L'impact sur la planète, ça aussi, ça a beaucoup explosé. Si on peut facilement réparer nos produits, ça veut dire que les produits, ça peut durer plus longtemps. Ça veut dire qu'on achète moins de smartphones, moins de tablettes, moins de laptops. On parle notamment des smartphones de Samsung et LG. Et on parle aussi des derniers laptops d'Apple. Dans le classement, on a vu qu'ils sont moins réparables qu'avant. C'est-à-dire que les décisions ils ont été prises au niveau du design de faire les produits plus difficiles à réparer. y a beaucoup d'exemples des marques qui ont fait du progrès. Il y a beaucoup d'exemples de comment ça peut être. Donc, notamment, on parle de Fairphone, on parle de HP et de Dell, qui ont des produits qui sont faciles à réparer. Donc, ce n'est pas que des mauvaises nouvelles. On les demande à ces grands acteurs de prendre les décisions différentes et de faire quelque chose en nom de la planète et pas seulement pour le profit, non ?
C'était Brut et l'organisation Greenpeace sur l'obsolescence programmée. Pour résumer, l'obsolescence programmée ne passe pas forcément par le logiciel, mais aussi par le design du téléphone vis-à-vis de sa réparabilité. C'est-à-dire que les grandes compagnies de smartphones aujourd'hui, telles qu'Apple et Samsung, vont designer leur téléphone de manière à ce que celui-ci soit plus difficilement réparable, afin que l'utilisateur ayant acheté un autre plutôt que d'essayer de le réparer. Ceci est donc un point important à garder en tête pour ce projet.
Pour conclure, Stop Obso vise avant tout à donner aux utilisateurs les moyens de garder leur téléphone plus longtemps et de mieux comprendre ce qui influence réellement son vieillissement. Avec le diagnostic, les fiches, les forums ou encore l'onglet d'engagement, l'application propose des outils concrets pour agir, réparer, s'informer et éviter un remplacement trop rapide des téléphones, même si c'est l'utilisateur qui fait tout. L'enjeu est simple, réduire l'obsolescence en rendant chacun plus autonome et mieux accompagné. La suite du projet consistera à développer ces fonctionnalités et à imaginer comment l'application pourrait s'intégrer encore davantage dans les pratiques du quotidien. Stop Obso ouvre ainsi la voie vers une utilisation plus durable et plus responsable de nos smartphones. Merci.
So far is lonely. Standing there, killing time. Can't commit to anything but a crime. Leaders on vacation, an open invitation. Animals, evidence. Pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside them, got friends but can't invite them. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Yeah. Don't say I didn't warn ya. Yeah. All the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. Look at you, needing me. You know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers, Peter should know better. Your cover-up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help, wow. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. Say no.
Et bonjour, rebonjour. Donc vous êtes sur Graphite 94.9, graphite.net. Aujourd'hui, les étudiants et étudiantes du cours IS03 Lothéquisation et Numérique nous présentent le résultat de leur semestre de travail autour d'un projet. On vient d'entendre Paul et Luca nous parler de Stop Opso. Et à présent, eh bien, je vais passer la parole à Julie Boucaud et Anaïs Sintolesi, pardon, pour nous parler du projet Framamia. C'est quand vous voulez.
Bonjour à vous, auditeurs et auditrices de Graphite. Comme l'a dit Stéphane, nous sommes deux étudiantes de l'Université technologique de Compiègne. Et le projet que l'on a travaillé tout au long de ce semestre portait sur l'intelligence artificielle, c'est-à-dire l'IA. Le projet était donc intitulé Framamia et était porté par l'association Framasoft, qui contribue donc à l'éducation populaire et à l'émancipation du numérique. Vous pouvez les consulter dès à présent leur site internet, qui regorge d'informations et d'outils libres. Nous avons donc été suivis par Martin Gubry tout au long du projet, ainsi que ponctuellement par Christophe Mazuti et Stéphane Poinsard, que l'on remercie tous chaleureusement. Concrètement, notre projet a pour objectif de concilier l'IA et la lothéquisation, c'est-à-dire adopter une démarche de conception technocritique et environnementale. On a donc regardé sous trois angles différents cette question. Tout d'abord, comment peut-on informer, sensibiliser et former les publics sur les enjeux des IA génératrices, c'est-à-dire ChatGPT par exemple. Mais également, c'est poser la question de comment peut-on allier, dans une même société, ces fameuses IA génératrices, ainsi que l'esprit critique. Et un autre aspect crucial de notre projet a été d'imaginer des alternatives aux géants du web dans cette dynamique de lothéquisation. Alors pour répondre à ces différents objectifs, nous avons imaginé plusieurs produits. Tout d'abord, une campagne de sensibilisation comprenant des affiches, Frama Affiche, une extension de navigateur, Framia Impact, l'implémentation d'un service de LLM lothéquisé, Frama LLM, ainsi qu'un site web de formation et d'information, Frama Educ. Ainsi, les acteurs du projet sont multiples, que ce soit lors de la fabrication avec les développeurs et développeuses web, l'utilisation avec les étudiants, les étudiantes, les techniciens, les techniciennes, ou encore lors de la distribution avec les membres de Framasoft.
Maintenant que ça a été dit, pour être sûr que tout le monde comprenne bien de quoi on parle et que l'on ait tous les mêmes définitions, laissez-moi revenir rapidement sur les termes d'IA, IA générative, qu'on appellerait également IAG ou LLM, et d'éducation populaire. Donc pour commencer, ce que nous appellerons IA, ce sont les machines qui ont la possibilité de reproduire des comportements associés aux humains, tels que le raisonnement, la planification et ou encore la créativité. À partir de là, on définit une IA générative comme un système d'IA capable de générer du texte, des images, des vidéos ou d'autres médias en réponse à une requête. Un très bon exemple que tout le monde connaît est ChatGPT. Pour ce qui est de l'éducation populaire, on l'entend plutôt comme un processus visant à faire évoluer les individus et la société en dehors des cadres d'apprentissage traditionnels. Donc, entre autres, en dehors de l'éducation nationale, typiquement. C'est également se donner les moyens de comprendre le monde afin de pouvoir le transformer. Et c'est exactement le but de notre projet, qui vise à réorienter le futur de l'IAG en comprenant ses différents impacts dans notre société. Voilà. Maintenant que les termes essentiels ont été clarifiés, je peux reprendre une note de lecture qui a été faite lors de notre étape de veille sur le site de Framamia, comprendre l'IA pour la démystifier, publiée par l'association Framasoft en 2025, et qui permet de contextualiser et expliquer un peu plus le sens de notre projet Framamia et pourquoi il est important. Déjà, il faut remarquer que l'IA n'est pas un outil neutre, comme d'ailleurs aucun outil technique, mais il était important de le préciser. C'est même loin d'être neutre, puisqu'elle poursuit l'objectif de faire croître l'industrie et la rentabilité économique en minimisant les coûts partout où c'est possible, notamment les coûts humains. Ses promoteurs cherchent aussi à générer de nouveaux monopoles économiques, ce qui nous amène à parler de capitalisme algorithmique, un concept qui, je cite, repose sur l'extraction massive de données personnelles, le développement accéléré d'algorithmes, l'hégémonie de plateformes, une refonte du monde du travail et l'arrivée de systèmes décisionnels automatisés dans nos sphères sociales. Citation que je sors du site de Framamia. D'un point de vue écologique, on a une industrie dont l'impact environnemental est difficilement quantifiable, mais dont on sait qu'il est déjà important et surtout en croissance exponentielle. Les prévisions en besoin énergétique sont incertaines, car l'IA évolue trop vite et de façon trop imprévisible. Mais déjà aujourd'hui, nous pouvons voir que ces besoins sont immenses. L'empreinte écologique l'est tout autant, et la première ACV réalisée sur une IAG, l'IAG française Mistral Large 2, publiée en juillet de cette année, le confirme. Une ACV, pour que tout le monde soit clair, est une analyse de cycle de vie d'un outil, et a pour objectif, notamment de mesurer son impact environnemental, commençant par l'extraction des matériaux nécessaires à sa fabrication jusqu'au moment de sa disposition. Ici, concrètement, pour Mistral Large 2, l'IA avait par exemple déjà consommé 281 000 mètres cubes d'eau depuis janvier 2025, sachant que ça faisait déjà 18 mois que l'IA était en activité et utilisée par le grand public, par le public. Et je finirai avec un dernier point sur les enjeux sociaux et les risques démocratiques liés à l'IA, car par exemple, elle offre un pouvoir de surveillance sans précédent et accentue les stéréotypes, impose certaines visions du monde ou encore encourage l'individualisme. On est face à un phénomène de standardisation globale par l'IA et comprendre son fonctionnement n'est aujourd'hui plus une option, mais une nécessité. Maintenant, pour illustrer l'ampleur que l'IA pourrait avoir dans le futur, plus ou moins proche, un extrait du TED Talk de Sam Altman datant d'avril 2025.
One of our researchers tweeted, you know, kind of like yesterday or this morning, that the upload happens bit by bit. It's not, you know, it's not that you plug your brain in one day, but it's you will talk to ChatGPT over the course of your life. At some day, maybe if you want, it'll be listening to you throughout the day and sort of observing what you're doing, and it'll get to know you, and it'll become this extension of yourself, this companion, this thing that just tries to like help you be the best, do the best you can.
In the movie Her, the AI basically announces that, you know, she's read all of his emails and decided he's a great writer and sends, you know, persuades a publisher to publish him. Is that, that might be coming sooner than we think.
I don't think it'll happen exactly like that, but yeah, I think something in the direction where AI, you don't have to just like go to ChatGPT, or you're getting like proactively pushed things that help you, that make you better, whatever. That does seem like it soon.
C'était le TED Talk de Sam Altman, et je vois ici une courte retranscription en français des points importants. En bref, il dit qu'un jour, possiblement, ChatGPT pourrait nous écouter, nous observer, apprendre à nous connaître et devenir une véritable extension de nous-mêmes, dans l'objectif, simplement, de nous aider à être toujours meilleurs et à faire de notre mieux. Entre autres, on n'aurait plus besoin d'aller sur l'IA non plus pour lui poser des questions, mais l'IA sera proactive et enverra d'elle-même des choses qu'elle considérera utiles pour notre quotidien. Voilà. Maintenant, je repasse la main à Julie, qui vous présentera en bref les différentes idées de notre projet.
Alors, pour revenir justement à ce projet, à partir des divers objectifs que j'ai évoqués plus tôt lors de cette présentation, nous avons réalisé une phase d'idéation, de laquelle nous avons donc tiré nos produits, que ce soit Frama LLM, Frama Affiche, Framia Impact et Frameduc. Alors, l'objectif a été de regarder si chaque produit contribue bien aux objectifs de la lotéquisation. Alors, pour ce faire, nous avons utilisé une analyse selon 27 concepts répartis en 3 catégories. Tout d'abord, les valeurs que renforce le produit. Ensuite, les tensions auxquelles il résiste. Et enfin, les leviers qu'il mobilise. Alors, notre premier produit, comme je l'ai dit, est une campagne d'affiche de sensibilisation. Ces campagnes servent à la fois pour sensibiliser, avec des images un petit peu choc, pour révéler ce qui se cache réellement derrière l'IA. Mais aussi avec des messages proposant des alternatives pour donner des solutions au public, qui pourrait peut-être se sentir désarmé en réponse. Avec, par exemple, la mise en avant d'alternatives proposées par l'association Framasoft, tout simplement. Ce produit répond donc à notre objectif premier de sensibiliser le public, mais aussi de développer l'esprit critique. Il participe en ce sens aux valeurs de responsabilité et de soutenabilité. Il permet également de mobiliser l'optimisation tout en résistant à la consommation, à la croissance et au progrès. Notre second produit est une extension de navigateur, Framamia Impact. Ses fonctions sont simples, proposer par exemple un logiciel de comptage de l'impact de l'IA génératrice utilisée. L'idée est donc d'éclairer sur les conséquences de son utilisation. Et elles seront donc d'indiquer les divers impacts, tels que la consommation en eau et la consommation en électricité d'une simple requête. Alors, prenons l'exemple de Léa. Léa, elle est tombée sur une affiche l'informant de l'existence de Framia Impact. Elle installe donc, sur son navigateur, cette extension libre. Après l'installation, un nouvel élément d'interface apparaît sur son navigateur, le dessin d'une petite ampoule et d'une bouteille d'eau d'un litre. Plus tard dans la journée, elle utilise une IA génératrice, et après avoir fait sa requête, elle constate que les chiffres à côté de ses dessins sont passés par exemple de 0 à 5 pour l'ampoule et de 0 à 0,5 pour la bouteille d'eau. Elle que son prompt a consommé l'équivalent en électricité de 5 ampoules et d'un demi-litre d'eau. Léa se rend donc plus concrètement compte de la quantité de ressources utilisées pour chacune de ses requêtes et prend conscience de l'impact des IA génératrices. De la même manière, l'extension propose des pop-up de prévention avant l'utilisation de toute IA génératrice. Également, son nombre de prompts journaliers, il est limité. Mais il lui est également proposé une bibliothèque ressourçant un ensemble d'alternatives aux usages les plus fréquents des IA génératrices, avec par exemple des sites web libres de recettes de cuisine. Un troisième produit est Frameduc. C'est tout simplement un site web qui propose gratuitement des formations sur l'IA, sur les IA génératrices, pour mieux la comprendre et donc la démystifier, avec par exemple la présentation en image de data center pour révéler en fait la matérialité qui se cache derrière ce numérique et ces IA. Enfin, un dernier produit est Frama LLM. Il consiste simplement en l'implantation de manière archipélisée de divers services de LLM, légers, libres et sur des serveurs locaux. Ainsi, plusieurs associations ou petites entreprises pourraient proposer ces services de LLM en utilisant des logiciels libres, des données transparentes et dans une logique de proximité. Ces utilisateurs auraient l'opportunité de rencontrer les informaticiens et informaticiennes qui gèrent l'IA pour échanger sur ces enjeux, les usages et la protection des données. Pour plus d'informations sur notre projet Framamia, n'hésitez pas à aller consulter notre site web disponible sur l'onum.scenari qui retrace l'intégralité du projet. Et avant de terminer, je vous partage une citation inspirante de Philippe Mérieux. « L'IA comble le désir de savoir, mais tue le désir d'apprendre. » Pour terminer, nous vous laissons avec Bohemian Rhapsody du groupe Queen, qui inspira le nom de notre projet, ainsi que celui d'un autre groupe également porté par Framasoft, Frama Let Me Go. Merci beaucoup.
Slide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Doesn't really matter to me, Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead.
Will you do the fandango?
Thunderbolts and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo, Galileo
Figaro,
Magnifico. I'm just a poor boy, nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
mia, mamma mia.
Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me.
Vous êtes sur Graphite 94.9 FM et graphite.net. Aujourd'hui, les étudiants et étudiantes d'IS3, du cours IS3 de l'Université de Technologie de Compiègne, Lotéquisation et Numérique, nous présentent leurs travaux. Donc, on a eu les présentations des projets Stop Opso et Framamia par Paul, Lucas, Julie et Anaïs. Et donc, à présent, eh bien, les autres étudiants du cours ont préparé quelques questions que je vais relayer et puis eh bien, autour desquelles on va échanger un petit peu. Donc, première question pour Paul et Lucas sur le projet Stop Opso. Stop Opso, le Opso, c'était pour obsolescence. Est-ce que vous voulez bien nous rappeler très rapidement ce que signifie obsolescence et obsolescence programmée ? Et puis ensuite, une seconde question, je vous livre les deux d'un coup. C'était, eh bien, en fait, comment est-ce que les gens qui ont des téléphones vont tout simplement connaître l'existence de votre application pour pouvoir l'utiliser ?
Alors, pour rappeler la définition de l'obsolescence, c'est, pour faire simple, cette impression qu'un objet est arrivé en fin de vie, qu'il ne marche plus, qu'il est cassé, que ce soit pour les téléphones ou autres, enfin pour le numérique ou d'autres domaines en général. Et donc l'obsolescence programmée, ça va être le fait de programmer cette obsolescence en amont pour que, par exemple, le téléphone se casse ou qu'on ait l'impression qu'il ne marche plus au bout d'une certaine durée pour forcer l'utilisateur à revenir en racheter un autre et donc faire du profit pour l'entreprise.
Sur ce, je vais prendre le relais sur la deuxième question, qui est une question un petit peu compliquée parce que l'application a en quelque sorte pour but de combattre un petit peu la publicité qui est menée par les entreprises de téléphones comme Apple et Samsung pour promouvoir leurs nouveaux modèles. Mais malheureusement, même si on aimerait lutter contre la publicité pour faire connaître l'application, on ne va pas vraiment avoir le choix. Il va falloir qu'on fasse de la publicité, nous aussi, pour la faire connaître. Parce que pour que l'application fonctionne au mieux, il va nous falloir un maximum d'utilisateurs pour que l'impact soit suffisamment important.
Ouais, effectivement, hein, on a ici une question intéressante. On va voir qu'elle va se poser également pour le deuxième groupe. Mais c'est des choses qu'on essaye de garder en IS3, c'est-à-dire et bien de rester avec un peu ces paradoxes. On a envie de lutter contre la publicité ciblée, etc. Et puis on se rend compte que des fois, pour promouvoir quelque chose qui irait contre la publicité, il faut faire de la publicité. Alors voilà, donc merci à vous de cette contribution. On va le voir avec donc, le deuxième groupe nous a parlé d'intelligence artificielle génératrice. Et bien on va retrouver un petit peu la même chose. Donc je vais vous poser deux questions. Allez, je commence par la deuxième, mais vous répondez dans le sens que vous voulez. Donc c'était un petit peu dans le sens également, le même sens. sens que la question précédente, c'est-à-dire, eh bien finalement, vous nous avez parlé d'un produit Frama LLM, donc il sera libre, il sera décentralisé, il sera promu par des organisations locales, mais ça restera quand même un LLM, et donc est-ce que finalement, c'est pas un peu quand même faire la promotion de l'IA que d'adopter ce genre de stratégie, hein, pour info ou mémoire. Il y a des projets, par exemple, il y a l'Atécopole de Toulouse qui a proposé là, un manifeste d'objection de conscience de l'IA, et donc il demande aux gens de l'enseignement supérieur de ne plus du tout faire d'intelligence artificielle. Donc voilà, donc c'était un peu une première ou une deuxième question, vous traitez dans l'ordre que vous voulez. Et puis il y avait une autre question, je vous livre les deux d'un coup pareil, c'était, vous avez dit à un moment que l'IA renforçait l'individualisme. Voilà, est-ce que vous avez quelques éléments autour de ça pour étayer, compléter, à vous?
Alors pour commencer par rapport à la première question, il est clair qu'en discutant avec nos suiveurs, et cette question elle est venue de est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux fermer directement tout LLM, service de chat, etc. Nous on a pris le parti de se dire qu'il fallait mieux tout d'abord proposer du moins pire avant de se tourner vers une fermeture totale. D'y aller plus progressivement avec en parallèle l'éducation qui est également quelque chose de central pour notre projet. Et en quelque sorte, on part aussi du principe qu'il est presque trop tard pour fermer totalement ces services de LLM puisqu'ils sont très intégrés dans nos sociétés. Et si je vous disais de lâcher votre téléphone et de ne plus y revenir du tout, ce serait très compliqué aujourd'hui. Donc c'est une question qui est assez délicate et qu'on prend le temps de traiter également lors de ce projet.
Quant à la deuxième question, en rapport à l'individualisme et l'IA, en fait, il faut voir un peu, il faut remettre dans le contexte le fait qu'avant, sans les IA, lorsqu'on avait des questions, on allait les poser aux personnes autour de nous, nos enseignants, nos amis, notre famille. Aujourd'hui, on a ChatGPT, on ouvre l'application, on pose la question et c'est un outil qui nous répond. Et autre chose qui arrive, c'est qu'on a tendance à croire absolument tout ce qu'il va nous dire. On ne le remet absolument pas en question. Chose qui arrivait plus souvent quand on était face à des humains. Et donc, en ce sens, on se retrouve non plus avec des contacts riches et réellement humains et qui nous apportent quelque chose, mais simplement avec des contacts complètement vides, avec une machine qui balance des informations et qu'on croit aveuglément. Et donc, on se retrouve petit à petit isolé et on ne sait plus comment faire lorsqu'on a des humains devant nous.
Ok. Puis effectivement, hein, plutôt que finalement d'inviter, qu'on s'invite à la radio tous les cinq aujourd'hui, on aurait pu faire générer à la place un podcast par IA. Donc, c'est peut-être effectivement un peu plus convivial au sens habituel ainsi. Eh bien, merci à tous les quatre. Vous avez eu à travers ces projets quelques aperçus, un certain aperçu de ce qu'on peut faire en IS3, dans ce cours de l'authentification numérique. Hein, Julie nous a parlé deux, trois fois là, de fermeture. Hein, c'est un concept qu'on aborde plusieurs fois. Le fait de fermer des technologies, de décider à un moment de ne plus faire. Donc voilà, c'est des questions qu'on peut au moins se poser, même si, comme tu l'as dit, c'est toujours extrêmement compliqué dans une société qui a généré de la dépendance. On pourrait vouloir fermer l'automobile, on pourrait vouloir fermer le nucléaire, on pourrait vouloir fermer un certain nombre de choses comme ça qui posent problème. Mais d'un autre côté, eh bien, on a évidemment une dépendance forte à ces techniques, donc ça ne peut pas se faire en claquant des doigts. Peut-être avec Paul et Luca, on a posé la question de la croissance et de la décroissance. Si on lutte contre l'obsolescence, eh bien, une des conséquences, à un moment, c'est la décroissance potentielle. Alors, vous l'avez dit, ça peut être la décroissance d'un secteur et puis, à l'inverse, avoir un autre secteur qui pourrait croître. Par exemple, je sais pas moi, des formes d'agriculture plus soucieuses des environnements socio-écologiques. Voilà. Vous avez mis aussi en exergue les paradoxes. Hein. Il y a tout un morceau du cours qui consiste à se poser soi-même des questions justement sur ce qu'on a proposé pour voir que, en général, c'est pas si simple. Voilà, merci à tous les quatre. Hein. Donc, c'était les deux premiers projets du semestre présenté, Stop Opso et Framamia. Et puis, on va en avoir deux autres d'ici quelques minutes. Vous pourrez retrouver cette émission sur aperi.tube, une média sociale de publication de vidéos libres et décentralisées. Et puis, tous les projets ont fait l'objet d'une publication en ligne sous licence Creative Commons by SA. Et vous y retrouvez également tous les cours si vous voulez. Et tout ça accessible à partir de l'onum.fr. l'onum.fr. Et merci encore à tous les quatre.
Merci à vous.
Merci, bonne journée.
Merci à vous.
À très bientôt. Et puis voilà, on rend la radio à la musique quelques instants avant de revenir avec un autre groupe.